Donc, bonjour et bienvenue à notre troisième série de conférences de la chaire de recherche en droit et médecine du Canada. C'est un grand plaisir de vous revoir au début de cette année. Vous vous rappelez que notre thème 2004-2006, c'était le génome et la santé publique. L'année passée, c'était la médecine régénérative et cette année, c'est le bien commun et la santé. Je constate que, comme d'habitude, Marie-Angèle Grimaud s'est dépassée. Tout est organisé, à la fois les programmes que vous pourriez prendre, l'annonce de notre prochain conférencier François Rangeon, le professeur François Rangeon, sur l'intérêt général et les notions voisines, le 4 octobre, même salle, même heure, même invitation. Je voulais aussi mentionner que, sur cet appareil qu'on vient d'avoir, vous allez trouver le livre de notre série Droit, biotechnologie et société qui vient de sortir, dirigé par Lynn de Tourneau, que certains d'entre vous connaissent, et ça s'intitulait Bioingénierie et responsabilité sociale. Donc, c'est une autre preuve le travail que la chaire, avec l'aide à Marie-Angèle Grimaud, et cette année pour cette série de Yann Joly et Sabrina Fortin. J'aimerais donc introduire, c'est un grand plaisir, parce que avant même de faire un petit bio officiel, je dois vous dire qu'il y a longtemps, quand on était, mon mari et moi encore étudiants au doctorat, on a reçu des conseils très précieux comment équilibrer vie familiale et vie politique, vie professionnelle. Et c'était les conseils d'Elisabeth et Jacques-Yvan Morin qui nous ont aidés de prendre des décisions importantes. Alors, Jacques-Yvan Morin, comme vous connaissez, surtout des collègues ici présents avec nous de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, a fait ses études supérieures à McGill, à Harvard et à Cambridge en Royaume-Uni. Il était professeur de droit international et constitutionnel ici entre 1958 et 1973. Et j'ai découvert toutes sortes de choses intéressantes dans le curriculum vitae de M. Morin. Il était arbitre de grief de travail au Québec, membre de la Cour internationale d'arbitrage, pardon, à La Haye, aux Pays-Bas, et président de la section montréalaise de l'Association de droit international. Il a fondé, ça je ne savais pas, le McGill Law Journal et la Revue québécoise de droit international aussi. Et comme la plupart d'entre vous savent, bien sûr, c'est qu'il était candidat du Parti québécois. Il est devenu même chef de l'opposition officielle entre 1973 et 1976, pour ensuite devenir pardon, ministre de l'Éducation dans le cabinet de René Lévesque, dont Yann. Une série à la télévision assez intéressante à 8 heures le jeudi soir, ce temps-ci. Il a devenu ministre d'État au développement culturel et scientifique, ministre des Affaires intergouvernementales, c'est-à-dire une décennie, non seulement comme professeur, plus qu'une décennie comme prof, mais une décennie à service public. Donc, de retour à l'enseignement ici à la faculté, vous donnez un cours actuellement, M. Morin. Il a aussi été nommé officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre de la Pléiade et grand officier de l'Ordre national du Québec en 2001. Donc, c'est un grand plaisir et un honneur d'ouvrir notre série de conférences de cette année avec une présentation sur de M. Morin dans notre série Le bien commun et la santé. Donc, je cède la parole pour ceux et celles qui ne connaissent pas les règles de jeu, entre guillemets, on a toujours une quarantaine de minutes de présentation. 15 minutes de questions pour que les personnes qui doivent suivre des cours à 13 heures puissent partir à l'heure, mais il y a un petit buffet aussi pour ceux et celles qui peuvent rester poser des questions et manger une petite chose. Alors, Monsieur Morin.
Madame, chers collègues, merci de m'avoir fait sortir de ma retraite. Cela me donne l'occasion de revenir aux choses fondamentales, comme il se doit dans une faculté de droit. Je suis donc très heureux de cette occasion. Et le bien commun est une des questions fondamentales qui se posent tôt ou tard aux juristes. Alors, mesdames, messieurs, je vais donc traiter de l'éthique du bien commun et de la mondialisation. Dans cette époque que nous disons de mondialisation, est-il encore pertinent de parler de bien commun? Alors que tend à prévaloir le chacun pour soi, inspiré par un certain réalisme et l'ultralibéralisme ambiant, oserait-on encore soutenir que le bien commun de l'ensemble des peuples et des États doit transcender les intérêts particuliers et fonder le droit qui régit les rapports entre États? Vous savez que deux écoles de pensée s'affrontent à ce sujet. La première enseigne que l'ensemble des nations, grandes et petites, forment une communauté au sein de laquelle chacun doit veiller au bien de l'ensemble, au bien de tous. S'y rattachent plusieurs courants de pensée ou doctrines selon le fondement objectif ou subjectif ou même utilitariste que l'on donne au droit, à cette notion de bien commun, qui s'exprime d'ailleurs de bien des façons. Il n'y a pas que le bonum communis et le bien commun. Il y a, selon les auteurs, le bonheur général, le public welfare, la richesse commune, le social interest, les fins communes, the happiness of the community, et j'en passe. La seconde école, au contraire, se veut réaliste et soutient que chacun doit veiller avant tout à son propre bien et même ne pas hésiter à le défendre, voire à l'agrandir. Sinon, pensent les tenants de cette école, c'est l'autre qui profitera des avantages qu'il peut avoir sur vous. De nos jours, l'un des avatars de cette position, de cette pensée, prend la forme de l'ultralibéralisme, on l'appelle quelquefois néolibéralisme. La guerre froide a radicalisé les tenants de cette option, de ce réalisme. À leurs yeux, l'effondrement du système soviétique leur a donné raison, de sorte que le libre marché et le laisser-faire sont devenus des sortes de dogmes qu'on retrouve aussi bien chez les économistes, chez les politiques, que chez les juristes, d'ailleurs, comme vous le savez. L'opposition entre ces deux lectures de la situation du monde est aujourd'hui accentuée par la mondialisation. Et l'on peut se demander laquelle répond mieux aux besoins de cette communauté, de cette société malaisée que forment les États. Tout d'abord, que faut-il entendre par mondialisation? Je crois qu'il faut que nous l'entendions de la même façon, à tout le moins que vous sachiez ce que signifie cette expression pour moi et pour un certain nombre de personnes aussi. Le mot décrit avant tout l'économie mondiale, quelque transformée par l'évolution des communications et de l'information, ce qui permet le foisonnement des réseaux, réseaux qui sont tout aussi bien économiques que sociaux, et complétons ce tableau qui est un petit peu trop économique par l'opinion qu'en a l'Assemblée générale des Nations unies. Dans une résolution adoptée à sa dernière session, donc il y a un an à peine, l'Assemblée générale des Nations unies décrit la mondialisation comme un processus complexe de transformation culturelle, structurelle, pardon, qui n'est pas purement économique et financier, mais, ajoute l'Assemblée, comporte des dimensions sociales, politiques, environnementales et juridiques qui ont une incidence sur le développement. Je crois que cette définition peut nous servir de base. L'impact, évidemment, en est souvent négatif, déclare l'Assemblée, car les avantages en sont très inégalement partagés et ses coûts inégalement répartis. Alors, tout ceci, donc, cette mondialisation quelque peu débridée, aboutit à l'exploitation incontrôlée des ressources, aux pollutions, aux déchets dangereux, dont on parle beaucoup en ce moment, à cause d'Abidjan, et les maladies infectieuses qui sont du cortège. Le laisser-faire touche également les pays développés, cependant. Trafic en tout genre, menaces sur la couche d'ozone et la diversité biologique, changement climatique, tout cela est à l'ordre du jour, comme vous le savez. Ces menaces planent au-dessus de tous les peuples et même les plus puissants, comme nous le voyons actuellement. En pareille conjoncture, donc, est-il le moindrement réaliste de parler de bien commun? Pourtant, la mondialisation ultralibérale n'est pas la seule possible. Une mondialisation mieux partagée, multilatérale, et comme le veulent certaines résolutions de l'ONU, une mondialisation qui soit à visage humain, je crois que cette expression est bienvenue, une mondialisation à visage humain n'est-elle pas concevable? Les pays développés qui refusent ces perspectives ne prennent-ils pas le risque de se trouver démunis à leur tour, un jour ou l'autre, devant des menaces comme la surexploitation des ressources, les changements climatiques et les pandémies infectieuses? Il est vrai que les tentatives de conjurer ces périls dans le cas onusien ne sont pas toutes concluantes. Nous allons le voir. À supposer même qu'on puisse tomber d'accord quant à la pertinence de l'idée d'un bien commun mondial, qui possède l'autorité nécessaire pour le définir, pour le faire objectivement et de façon légitime, et pour en déduire des règles de comportement des États? C'est une question pratique, mais elle se pose. Comment le principe éthique peut-il passer dans le droit que nous appelons positif? Voilà la deuxième grande question. Dans la première partie de mon exposé, nous tenterons de préciser la notion de bien commun. L'idée en est-elle transposable dans les rapports entre États? C'est une idée, nous allons le voir, qui est née dans le cadre d'un certain nombre d'États souverains. Dans la seconde partie, nous nous demanderons par quels moyens le bien commun peut s'implanter dans la société internationale d'aujourd'hui. De quelles techniques peut-on se servir pour faire pénétrer le bien commun, l'éthique du bien commun, dans le droit? Qui est la grande question qui se pose aux juristes. Il fut un temps où la recherche du bien commun s'imposait à tous, tant gouvernants que gouvernés. Selon un discours de source théologique, la norme juridique découlait sans discontinuité de la conscience morale, portée par le raisonnement scolastique. La notion de bonum communis n'est pas la simple somme des biens particuliers, mais cherche plutôt à les hiérarchiser, de façon, comme disait Thomas d'Aquin, à les ordonner à quelque chose qui les dépasse. Cela fait de l'aide mutuelle un impératif moral appelant les contraintes du droit. L'apparition des États souverains en Europe au XIVe siècle, puis la réforme, les guerres de religion des XVIe et XVIIe, bouleversent cette doctrine. Grotius et ses épigones veulent élaborer une éthique laïcisée. Selon eux, les règles de la vie entre États peuvent être élucidées par la seule raison, et il en découle un droit naturel que l'école du même nom va exporter dans toute l'Europe à cette époque. Mais en réalité, cela tient plutôt des livres, car en réalité, donc, c'est la souveraineté des États qui désormais sous-tend les rapports internationaux. Et la raison, toute raisonnable qu'elle soit, la raison ne perçoit guère que le bien particulier de chaque État. La littérature de l'époque en est pleine. Les États deviennent bientôt ces léviathans, ces monstres dont Hobbes étudie les ressorts en 1651. Plaignez le chef d'État qui n'est pas absolu. Plaignez le chef d'État qui ne s'arme pas aux frontières, car il est guetté par mille périls et la vie de ses sujets sera nasty, brutish, and short. Cette idée, ce réalisme, demeure vivace dans la pensée politique de notre époque, où le terrorisme mondialisé et Guantanamo représentent le dernier état de la question. La philosophie politique des 18e et 19e siècles s'oriente encore de façon différente. Chez Locke et Montesquieu, elle met le droit et l'État au service de la liberté individuelle. Et cette idée supplante entièrement le bien commun. Mais l'idée de bien commun reste dans l'air, bien sûr, on l'invoque, mais elle n'est plus guère que l'addition des biens particuliers, des biens de chacun. Cela conduit à l'utilitarisme, qui est l'une des sources principales des deux courants de pensée libérales qui s'affrontent encore aujourd'hui. Une bonne partie de mon exposé va reposer sur cette distinction entre les deux libéralismes, que j'appellerai le libéralisme réformateur, d'une part, et le libéralisme du laisser-faire, d'autre part. Les tenants du néolibéralisme se réclament volontiers d'Adam Smith et de sa main invisible qui est censée donc réguler l'économie. Mais c'est là simplifier sûrement abusivement la pensée de Smith. The Wealth of Nations est une manière de bien commun matériel et sa démarche n'excluait pas l'existence de règles éthiques. Subjectives, soit, on ne croyait plus à cette époque à l'existence d'une théologie débouchant sur un droit impératif. Tout cela le conduit malgré tout à assigner certains devoirs à l'État, notamment en matière d'instruction publique. Il appelle cela les dépenses du Commonwealth et elles sont fondées sur l'idée que la liberté économique exige une éthique, fût-elle subjective. De même, si Bentham prône le laisser-faire, celui-ci ne doit prévaloir qu'après la réforme des lois sociales et des lois économiques du Royaume-Uni. Bentham est plus spécifique sur ce point qu'Adam Smith, bien entendu. Et pour Bentham, les lois de réforme sociale doivent être fondées, vous vous en souviendrez, sur le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, qui est aussi une définition du bien commun. Cette version utilitaire ne consiste pas dans la subordination des biens particuliers, mais résulte en quelque sorte de leur cumul, de leur addition. Quant à Mill, dans ses Principes d'économie politique, paru, vous le savez, en 1848, l'année même du manifeste communiste, il écrit que la liberté contractuelle, ce corollaire du libéralisme, ne saurait justifier, par exemple, le travail des enfants et des femmes dans les industries, voire dans les mines. Selon que l'on mette l'accent sur la liberté économique ou sur les responsabilités de l'État, on a construit, à partir de Smith, Bentham et Mill, deux versions divergentes du libéralisme. En simplifiant un peu les choses, la première n'admet qu'une intervention de l'État réduite au minimum dans l'économie et dans le social et aboutit à ce que nous appelons aujourd'hui le néolibéralisme ou encore l'ultralibéralisme. Tandis que la seconde, soucieuse de soumettre la société industrialisée à un minimum de règles éthiques et juridiques, évoluera vers ce que nous appelons le « welfare state ». Surtout, chez, par exemple, chez un John Maynard Keynes. Il ne faut pas s'étonner que les pays de l'Occident, et particulièrement les États-Unis, aient donné le ton à ce débat au XXe siècle. Je ne vais pas faire, évidemment, l'exposé de tous les auteurs qui sont intervenus dans ce débat, que vous connaissez déjà sans doute. Ces pays de l'Occident étaient les premiers à connaître les bienfaits, mais aussi les affres du progrès industriel et du développement. Aux abus du capitalisme et à la Grande Dépression ont succédé les réformes du New Deal en matière de relations de travail, de salaire minimum, de travail des enfants, sans compter les mesures d'aide sociale. Comme il arrive souvent, ce sont les crises qui rendent les sociétés et les dirigeants plus sensibles aux exigences du bien commun. Cependant, les tenants du primat de l'individualisme n'ont pas désarmé pour autant. Pour nous en tenir aux idées des avocats les plus articulés de ce néolibéralisme américain, ceux de l'école de Chicago, par exemple, Milton Friedman et ses disciples, l'idée même de l'intervention de l'État constitue une aberration. Le mot est emprunté textuellement à Friedman. Dans Capitalism and Freedom de 1962, Friedman propose de tourner résolument le dos au New Deal. Il faut, selon lui, revenir aux forces du marché et limiter le rôle gouvernemental au strict minimum. La législation sociale, de même que les politiques fiscales, les garde-fous financiers, tout cela doit être laissé au dynamisme du libre marché. Vous voyez comme les deux écoles se distinguent parfaitement l'une de l'autre. Et c'est ainsi que se trouve liée la contestation entre deux courants du libéralisme, celui du laisser-faire et celui de la réforme. Le premier débouche sur le néolibéralisme, si influent depuis quelques années, et particulièrement aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Cependant, il ne manque pas actuellement de philosophes, de juristes et d'économistes pour se montrer plus sensibles à la nécessité d'une éthique dans le domaine économique, y compris au niveau international. Parmi ceux-ci, je mentionne dans le texte qui vous a été distribué, du moins à certains d'entre vous, je mentionne la contribution tout à fait exemplaire du professeur John Rawls. Je ne m'étendrai pas, il faudrait pouvoir consacrer plusieurs heures à sa théorie de la justice, qui étend d'ailleurs son influence bien au-delà des États-Unis, par exemple en Europe, car les Européens sont tout à fait fascinés, et avec raison, pour la méthode forte, ingénieuse, qu'il propose pour déterminer les exigences de la justice et du bien commun entre les États. Mentionnons également le professeur Beauchet, qui n'est pas enclin à faire appel au jugement subjectif de la morale. Ce n'est pas un moraliste, c'est un économiste. Il entend s'en tenir à l'observation scientifique des faits. Un certain libéralisme, qu'il qualifie d'imparfait, entiché du fétiche du marché, multiplie, écrit-il, les dangers planétaires, particulièrement pour l'économie et l'écologie des pays les plus fragiles, dont le marché libre épuise les ressources. Donc vous voyez une critique concrète, économique essentiellement, mais qui rejoint au fond les autres que j'ai mentionnés. Persuadé que l'interdépendance des biens communs devenus rares selon son expression, exige un libéralisme bien compris, Beauchet préconise la réglementation efficace par un droit international rigoureux et des organismes internationaux propres à protéger à long terme les ressources communes de la planète. Les ressources communes de la planète, c'est une expression très concrète, mais c'est une forme de bien commun, naturellement. Le débat sur l'existence et les exigences du bien commun n'est pas prêt de s'éteindre. Je pense qu'il va durer une bonne partie du 21e siècle. Nous pouvons néanmoins en retenir la reconnaissance par de nombreux esprits, des scolastiques aux libéraux réformateurs, en passant par la pensée utilitariste, donc selon des cheminements très divers, des cheminements intellectuels très différents les uns des autres, mais qui convergent de l'existence d'un bien commun qui invite à soumettre les rapports entre États à des principes éthiques qui, faut-il le souhaiter, se transformeront tôt ou tard en règles juridiques. Il reste cependant à déterminer qui peut en établir le contenu concret et les normes juridiques qui en découlent. De quelles institutions disposons-nous qui aient la légitimité nécessaire pour accomplir une tâche aussi vaste, aussi délicate? Qui décide? Qui définit ce bien commun? Qui met les principes en œuvre? Qui en contrôle l'application? Comment sanctionner les manquements? Ces questions font l'objet de ma seconde partie. L'histoire de l'ONU, depuis 60 ans maintenant, est marquée par un recours croissant et constant à l'idée de bien commun. L'accession à l'organisation d'un grand nombre de nouveaux États, anxieux de modifier les règles du jeu des rapports entre États, particulièrement entre États riches et États démunis. Donc, l'accession de ces nouveaux États n'est évidemment pas étrangère à ces définitions multipliées de ce qui est le bien commun aux yeux d'une majorité d'États membres de l'ONU. Dans ce but, ils ont fait appel notamment à la notion d'humanité. Je pense qu'il est difficile d'ouvrir les résolutions de l'ONU sans tomber sur une forme ou l'autre de protection de l'humanité, de patrimoine commun de l'humanité. Cela revient comme un leitmotiv constamment. Comme si les États membres superposaient cette notion d'humanité, de commune humanité quelquefois, à l'ensemble des intérêts particuliers, et la superposait aussi aux souverainetés si tenaces, parce que beaucoup de ces résolutions invoquent aussi la souveraineté. Il y a là une ambiguïté qui joue des tours à beaucoup d'États, parce qu'il est difficile de prôner le bien commun pour prôner la souveraineté dans la phrase suivante. C'est néanmoins ce qui se produit à l'occasion, comme vous le savez. Dans les années 60, le bien commun de l'humanité fait l'objet de déclarations et de conventions multilatérales. Cela veut répondre avant tout aux impératifs du développement des pays qui ont accumulé des retards sur ce plan. Dans les années 70, le nouvel ordre économique international et surtout la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptés tous deux en 1974, constituaient une manière de plan indicatif à l'échelle mondiale, faisant appel à l'intérêt commun en vue de modifier le fonctionnement de l'économie libérale. C'est le texte même de la charte en question. Il s'agit de rien moins que de combler l'écart économique entre pays en développement et pays développés, et naturellement, les devoirs s'imposent surtout aux pays développés. Il ne peut pas en être autrement. Découle par exemple de cet objectif l'obligation de restituer les ressources provenant de toutes les formes de domination antérieure. Vous vous rendez compte de ce que cela pourrait signifier. Et ça se trouve évidemment dans la charte. Et l'obligation aussi de restituer les ressources provenant du passé, mais aussi le droit de nationaliser les biens étrangers sans qu'il y ait possibilité de recours au droit international ou à des tribunaux internationaux. Ce nouvel ordre comportait évidemment une certaine part d'utopie, mais je le cite parce qu'il témoigne à tout le moins de la vitalité de cette idée de bien commun mondial, en tant que projet, bien sûr, mais tout de même que projet explicite. Les États développés ne réagiront pas d'une seule voix, cependant, et l'on voit poindre, à cette occasion, des divergences entre les deux conceptions du libéralisme que j'ai mentionnées tout à l'heure. La version réformiste est la solution du laisser-faire. Devant les revendications globales du tiers-monde, l'Europe communautaire se déclare prête à rechercher des accommodements, des solutions qui soient équitables, tandis que les États-Unis voient plutôt dans la Charte des droits et devoirs une atteinte à leur conception du libre-marché. Et la délégation américaine dénonce ces résolutions peu réalistes, c'est le langage même du discours américain, qui ne peuvent que miner la crédibilité de l'ONU auprès de l'opinion américaine. On sent légèrement une menace financière derrière cette expression-là. Mais ne prêtons pas d'intention, il est bien certain que nous avons là deux attitudes très différentes. Celle de l'Europe, en raison de ses traditions réformistes notamment, qui ont commencé très tôt au 19e siècle, et l'attitude américaine qui, depuis un certain Reagan et avec un certain Bush, est une attitude essentiellement de laisser-faire et de chacun pour soi. Le résultat de tout cela a été l'abandon en 1981 des négociations globales que réclamait l'Assemblée générale, avec l'arrivée, surtout l'arrivée au pouvoir de l'administration Reagan. Alors, devant ce triomphe américain, ce triomphe du laisser-faire, et évidemment la perte de vitesse du régime soviétique, pour tout dire, l'abandon à toute fin pratique du système soviétique, eh bien, il ne restait plus à l'Assemblée générale, lorsque survint cet effondrement soviétique, qu'à tirer les conséquences de la nouvelle donne libérale, ce qu'elle fit en 1990, comme vous vous en souviendrez. La terminologie dirigiste a totalement disparu des résolutions de 1990. L'Assemblée ambitionne toujours le bien commun, mais par des voies libérales, à l'américaine si possible. La nouvelle stratégie de développement sera donc celle des pays développés. Mais force est de constater en rétrospective que les attentes des pays en développement ont été déçues, amèrement déçues. Et nous avons sous les yeux un rapport tout récent du secrétariat général de l'ONU sur la situation économique et sociale dans le monde en 2006, paru il y a 3 ou 4 semaines, qui dit cela en toutes lettres. Les disparités de revenus ont fortement augmenté dans le monde depuis 1980, même si dans le monde pris dans son ensemble, eh bien, il y a eu un enrichissement. Mais pas pour tout le monde, pour certains seulement. Le bien commun semble donc avoir régressé chez les plus démunis. Et les plus démunis sont nombreux, comme vous le savez. Ce rapport, les rapports récents de l'ONU et celui de la CNUSED identifient entre 40 et 50 États où l'appauvrissement est en marche. Le dénuement se fait de plus en plus grand. Dans plusieurs autres domaines, cependant, les années 80 et le début du 20e siècle ont vu se préciser de nouvelles urgences de biens communs sous la forme de menaces, planant non seulement sur le monde en développement, mais désormais également sur le monde développé. Peut-être même plus encore sur le monde développé. Ces menaces apparaissent clairement dans des domaines comme l'environnement, comme les changements climatiques, le virus H5N1, les pandémies, la drogue, le terrorisme et l'argent sale. Ne retenons pour nos fins que les dangers qui pèsent sur l'environnement et la santé publique, domaines contigus et qui sont à l'heure actuelle en pleine effervescence. Le sommet de la Terre, tenu à Rio en 92, montre qu'un sentiment d'urgence s'est installé, prévaut, devant les risques qui menacent la biosphère. Et qu'aux yeux des États participants, je cite, je ne pourrais pas ne pas reconnaître le bien commun une fois de plus, la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance. Ma foi, cela ne saurait exprimer plus clairement l'idée de bien commun. Les principes de la Déclaration de Rio relèvent cependant davantage de l'éthique que du droit programmatoire, même que de la soft law, et encore bien davantage du droit positif. Aussi, les participants ont-ils voulu proposer à la signature des États des conventions, des traités comportant des engagements plus précis. L'une d'elles porte sur les changements climatiques. Et je vais me permettre de courts commentaires. Cet accord cadre veut stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. Les États acceptent de tenir un inventaire de leurs émissions et ils acceptent la création d'un secrétariat, premier organe, vous voyez, d'un conseil scientifique et technique qui est aux mains des techniciens, des hommes de science, qui n'ont pas les mêmes préoccupations que les politiciens, ainsi que qu'un organe subsidiaire de mise en œuvre. C'est là un exemple, je pense, assez probant de la manière dont on peut graduellement apprivoiser en quelque sorte les États, les inciter à accepter des contraintes dictées par le bien commun manifeste qu'est le climat. En outre, l'accord cadre ne comportant pas au départ d'engagement chiffré, de réduction chiffrée, la conférence des parties s'est attachée en 1997 par le protocole de Kyoto à obtenir des pays industrialisés ou en transition des réductions quantifiées des gaz à effet de serre. On sait, nous connaissons bien ici, les objections et l'opposition que rencontre cet accord dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. En dépit des conséquences que cette insensibilité au bien commun peut avoir pour le continent même, pas seulement pour d'autres continents. D'autres moyens visent à exercer davantage de pression sur les États pour qu'ils se conforment aux principes de leur déclaration. Toujours dans le domaine de l'environnement, la Convention pour la protection de la couche d'ozone, signée en 85, complétée par le protocole de Montréal en 87, fait appel à plusieurs techniques qui sont autant d'étapes sur le chemin du bien commun concret. Groupe d'experts chargés d'assurer le suivi, réunion des parties, secrétariat permanent. La menace planant sur la couche d'ozone en raison des émissions de certaines substances, comme les CFC, paraît si grave que les parties ont consenti des mesures d'aide financière en faveur des pays qui réduisent effectivement la fabrication de ces substances. Des rapports périodiques doivent être soumis à l'examen des pairs par tous les États signataires, tous les États parties, devrais-je dire, et surtout, les parties au protocole de Montréal ont institué une procédure en cas de non-respect. L'expression apparaît dans les accords, dans les protocoles subséquents. Et en cas de non-respect, donc, on pourra appliquer des sanctions, comme la Russie en a fait l'expérience en 1995. Lorsque le bien commun se voit de la sorte donner des dents, on assiste à la mondialisation effective de la lutte pour le bien commun, du moins certains aspects du bien commun. On peut en dire autant dans le domaine de la santé publique. C'est même là l'un des exemples les plus probants de la corrélation entre le bien-être individuel et celui de la collectivité en ces temps de pandémie infectieuse. C'est déjà une vieille préoccupation de la société des États. Vous savez que, contrairement au domaine de l'environnement, la santé fait l'objet d'accords internationaux dès le 19e siècle. Et depuis 1946, la santé a son organisation mondiale qui est chargée, dans l'article 1er de sa Constitution, d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Encore une magnifique formulation du bien commun. Et pour cela, l'OMS s'est vue confier des fonctions de surveillance et d'intervention qui s'étendent à tous les continents. L'OMS incarne en quelque sorte le bien commun en matière de santé des populations. L'Assemblée de la Santé possède en effet le pouvoir d'adopter des règlements de contrôle sanitaire. Peu d'organismes ou d'organisations internationales possèdent cette faculté d'édicter à la majorité des contraintes qui entrent en vigueur dès que notifiées aux États membres, sans autre procédure, sans acceptation formelle de leur part. Sans doute serait-il prématuré de parler du pouvoir législatif de l'OMS. Certains auteurs s'y risquent, mais nous avons là à tout le moins une avancée considérable. Nous sommes devant le processus décisionnel le plus évolué du droit international actuel. En matière de santé, la souveraineté se fait plus modeste devant les exigences du bien commun. Salutaire inquiétude. Si on pouvait étendre cette inquiétude à d'autres domaines, peut-être le bien commun ressortirait-il davantage dans toutes sortes d'autres domaines. Le tout nouveau règlement sanitaire qui date d'il y a quelques mois à peine veut protéger l'ensemble de la population mondiale, encore une définition du bien commun, en renforçant les capacités de ses membres devant des événements internationaux. Toute situation de ce genre doit être notifiée dans les 24 heures à l'OMS. Alors interviennent les pouvoirs de l'organisation. Par exemple, c'est le directeur général qui décide en dernier ressort, en cas de contestation, de désaccord, s'il y a urgence, et qui décide également des mesures à prendre pour y faire face. Je reviens, avant mes conclusions, à l'Assemblée générale. Il s'agit d'une véritable obsession, année après année, surtout depuis les années 60, depuis la décolonisation. Une obsession du bien commun qui sous-tend de façon générale ces débats et ces résolutions. C'est ainsi qu'a été élaborée la fameuse déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée en septembre 2000, à la suite d'une réunion des chefs d'État pour célébrer l'an 2000. Ce document constitue un véritable compendium des objectifs du bien commun. Si vous voulez savoir comment l'Assemblée générale conçoit l'avenir du bien commun, tout est là. Je crois que ça doit faire 20 ou 25 pages. Donc, le bien commun a du chemin à parcourir, bien entendu. Et ce document, non seulement est un compendium des objectifs, mais il énumère les devoirs qui en découlent pour les États. Dans l'ère de la mondialisation, affirme la déclaration, l'ONU est un lieu de rassemblement indispensable de l'humanité tout entière. Encore, vous voyez, le lieu de rassemblement de l'humanité tout entière. Cela doit nécessairement déboucher sur le bien commun. Et l'ONU est le lieu de la lutte pour le développement de tous les peuples du monde. Voilà des propos que n'auraient désapprouvés ni les maîtres de la scolastique, ni Bentham, ni Mill, ni Keynes, ni Rawls, ni Beauchamp. Il faut cependant, tôt ou tard, s'attaquer au problème de façon concrète. Aussi, le sommet mondial tenu à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'ONU, l'automne dernier, à pareille époque, je crois que les dates sont à peu près, oui, ça se passait à ce moment-ci de l'année, mais il y a un an, à New York, et les chefs d'État se sont réunis à nouveau pour essayer de faire le point, et ils ont tenu à revenir sur la question, parce que dans les 5 ans intervenus, les choses n'avaient pas beaucoup bougé. Ultralibéralisme oblige. La résolution passe en revue les exigences d'un développement commun. Libéralisation du commerce, bien entendu, puisqu'on est dans une phase de libéralisme économique. Mais également, mise en valeur des ressources, santé, éducation, travail, conditions des femmes, tout cela a été négligé et tout cela doit être mis en œuvre maintenant, disent les chefs d'État. Et de ce foisonnement d'actions à entreprendre, je n'en retiens qu'un, la santé. À titre d'exemple, la situation sanitaire est telle dans certains pays que des mesures d'urgence sont nécessaires et doivent intervenir le plus rapidement possible en vue de l'amélioration immédiate des conditions de vie. Je paraphrase la résolution, c'est le vocabulaire même de l'Assemblée, notamment par des traitements antipaludéens. De nouvelles sources de financement devraient permettre la vaccination massive des populations. Donc vous voyez, on est tout de même dans le concret. Les États s'engagent. Le mot figure dans la résolution. Les États s'engagent. Elles ne sont pas obligatoires, ces résolutions, comme vous le savez, mais s'engagent tout de même à favoriser la recherche sur de nouveaux vaccins et microbicides, d'outils de diagnostic, de traitements permettant de faire face aux grandes pandémies. Ces engagements seront-ils tenus? C'est une autre affaire. Chose certaine, ce sont là les clés du passage de l'éthique au droit et à sa mise en œuvre. Bien, il est temps d'en venir à mes conclusions. De brèves conclusions. Depuis l'apparition des organisations internationales et dans la foulée de la décolonisation, le bien de l'humanité a trouvé de nouveaux protagonistes dans les pays en développement. J'ai expliqué longuement que la notion était avant tout d'origine occidentale, donc des pays développés. Si les États occidentaux en venaient à oublier leurs valeurs, à oublier leurs traditions, aussi bien objectives que subjectives, qu'utilitaristes, eh bien, il y aurait une relève. la relève serait prise par cette conscience rééditée, en quelque sorte, d'un bien commun qui donnerait à la mondialisation un visage humain. Observons que le bien commun ne s'impose pas dans tous les domaines avec la même vigueur. On peut en juger par les mécanismes de mise en œuvre et de financement qui complètent, mais si souvent n'accompagnent pas, malheureusement, les grands principes. En simplifiant un peu les choses, on peut distinguer trois niveaux d'effectivité dans la démarche d'affirmation du bien commun. Le premier niveau est celui-ci. Lorsqu'on touche à des intérêts industriels ou commerciaux, aux investissements ou au libre marché, alors les obstacles se dressent. Le droit au développement est très difficile à mettre en œuvre et demeure du domaine quasiment du métajuridique. Le bien commun n'existe alors qu'à l'état de projet ou programme très général. Deuxièmement, les obstacles paraissent moins insurmontables, mais demeurent néanmoins réels, dans le domaine du droit à l'environnement. Si le protocole de Montréal a pu contribuer efficacement à la protection de la couche d'ozone, le protocole de Kyoto, lui, se heurte à la résistance que nous connaissons. La soft law a bien du mal à décoller, à s'imposer. Troisièmement, la conscience des périls qui guettent l'humanité, tant riche que pauvre, explique sans doute la coopération plus spontanée qui caractérise la santé publique, notamment la santé publique, mais aussi l'environnement dans une certaine mesure, au plan mondial. Cette mondialisation est redoutée des pays développés, comme des autres. Et le bien commun devient alors, comment dire, plus palpable. Il prend alors la forme de règlements et de décisions à portée juridique, étayées par des moyens, hélas encore insuffisants, comme nous le savons tous. Cette gradation dans l'effectivité comporte une leçon. Ce pourrait être ma principale conclusion. Celui-ci s'impose d'autant mieux que son absence menace le bien-être des intéressés. La voie du bien commun passe donc par la prise de conscience de ce que les inégalités économiques et sociales entre peuples constituent des périls moins immédiats peut-être, mais non moins réels pour l'ensemble des États, que les pandémies ou les atteintes à la couche d'ozone. Quand on commencera à voir distinctement que dans le domaine économique et social, on voit poindre à l'horizon des menaces qui sont aussi graves que celles qu'on trouve dans l'environnement et la santé, alors le bien commun pourra progresser plus rapidement et sortir du domaine de la soft law ou du domaine métajuridique. Dans cette perspective, les normes qui en sont déduites et qui apparaissent d'abord comme du droit vert ou de la soft law ne peuvent constituer qu'une étape préliminaire, une étape préjuridique qui nous appartient à nous, nous aussi juristes, de faire évoluer vers le droit positif. Mais ce n'est pas là une mince tâche, car la vision communautaire du monde n'émerge que très, très lentement. Osons tout de même affirmer que le bien commun est tout aussi mondialisable que les problèmes qu'il entend contribuer à résoudre. Voilà, je vous remercie. Ce peuvent être des commentaires aussi.
Des commentaires, oui. Oui.
par des formes que tout le monde nous
entend. Et j'aimerais savoir si le bien commun peut se combiner un peu avec la souveraineté ou s'ils sont plutôt opposés.
Oui. Ils sont sûrement plus éloignés que rapprochés. Et quand on trouve dans une même résolution de l'Union un paragraphe qui invoque le bien commun, surtout pour demander aux États développés de faire ceci ou cela, le paragraphe suivant dit, mais attention, vous pouvez vouloir limiter les gaz à effet de serre, mais cela doit être compatible avec la souveraineté économique, souvent on précise économique, et le développement des États en général, et on pense surtout aux plus démunis. Donc, effectivement, mais c'est le vieil adversaire de toute la construction internationale. C'est le vieil adversaire de l'ONU, c'est l'adversaire classique du droit international. Et il tend, bien sûr, la souveraineté tend, comme principe, à avoir diminué son importance. D'abord, donnons-en, si vous le voulez bien, puisque vous soulevez la question, donnons-en une définition juridique, méticuleuse. Parce que politiquement, la souveraineté, c'est l'indépendance. Mais pour nous, juristes, ça ne dit pas grand-chose, ça. La souveraineté, c'est la faculté pour un État de déterminer lui-même l'étendue des compétences qu'il entend exercer. Et de ne pas se faire imposer par qui que ce soit des compétences dont il ne veut pas se départir. Il ne veut pas transporter des compétences à des organes supérieurs. Donc, on le voit, une définition un peu rigoureuse, qui est celle des juristes, de la souveraineté, contredit toute tentative d'imposer des règles aux États. Cependant, ils sont naturellement obligés, surtout dans le domaine de la sécurité, ils sont obligés de tenir compte d'un certain nombre de règles qui s'imposent à eux. Les règles du droit international, dérivées de la coutume, dérivées des traités. Ils doivent appliquer les traités de bonne foi, vous connaissez les règles. Bon. Donc la souveraineté, évidemment, on est devant une contradiction là aussi. La souveraineté, d'une part, ne reconnaît pas de supérieur, et dans les faits, elle est bien obligée d'en reconnaître. Mais on continue de revendiquer ce qui en reste, de craindre qu'il n'y en ait plus. Donc forcément, ça limite l'action de l'ONU. Dans le domaine de la sécurité, les dangers étaient tels après la Deuxième Guerre mondiale, on percevait les dangers de façon si forte qu'on a créé un organe qui est le Conseil de sécurité, qui peut prendre des décisions qui s'imposent aux membres de l'ONU. Même si le président de l'Iran a déclaré devant l'ONU hier qu'il ne s'inclinerait pas devant le Conseil de sécurité, il reste que ce sont les règles du droit international. Et je réponds bien.
Michel? Oui, j'ai été frappé par vos trois niveaux, là, c'est terminé avec la question de la santé publique. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous, que ce sont souvent les cris qui provoquent la mise en œuvre du bien commun.
J'ai
pas conscience. Mais c'est assez déprimant, finalement. Parce qu'on peut dire, effectivement, en santé publique, pour avoir été souvent à l'OMS, c'est souvent les cris qui ont fait bouger les peuples, qui se développent ou pas, avec les choses, les états, etc. Donc, finalement, on va prendre une expression connue, il faut faire peur au monde pour que le bien commun s'active.
Je présume qu'on pourrait écrire une histoire de l'humanité dans laquelle on rechercherait toutes les crises qui ont engendré des règles nouvelles. C'est clair pour l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Et oui. Il n'en faut pas pour autant souhaiter constamment des crises comme le H5N1 ou le SRAS ou toutes ces pandémies qui nous tendent au Basque. Non, on ne va pas aller jusqu'à là.
C'est un peu dommage parce qu'en fait, comme vous le dites bien, ces peuples qui n'ont pas accès minimalement au vaccin, ce sont souvent les crises qui viennent bouffer les ressources de l'ONU. Les crises qui finalement souvent ne provoquent pas tellement de décès.
Oui. De là l'importance
de ne pas négliger ces grandes déclarations qui portent surtout tournées vers l'avenir, comme celle du millénaire. Bon, ce dit parlement, c'est l'utopie. Oui, mais nous sommes coincés entre l'utopie et l'apocalypse. Alors, entre les deux, il vaut mieux aller du côté de l'utopie, parce que à la longue, on va peut-être réaliser certains éléments du programme. Donc, je n'ai personnellement aucune objection à des déclarations comme celle du millénaire. Ça se lit, mais extraordinaire, un monde qui aurait réglé tous ses problèmes, quoi. Mais, c'est là, un peu comme les scolastiques définissaient le bien commun dans une grande mesure sur le papier, parce que la réalité n'était pas tout à fait conforme au bien commun comme on le concevait au Moyen Âge.
Quand vous dites qu'il faut prendre conscience, c'est en attendant, c'est au moment des crises qu'on prend conscience de l'ampleur des problèmes. En fait, ça, c'est les pays qui sont développés, parce que si on va dans les pays en voie de développement, eux, ils ont bien conscience qu'ils ont des problèmes, sauf qu'on ne les entend pas, parce qu'ils ont, à mon avis, il y a un problème économique derrière, et du coup, ils n'ont pas assez de force au plan économique pour qu'on les entende et qu'on mette en place des choses.
Oui. Alors, de là à les voir se réunir à l'ONU et adopter des résolutions tentant de persuader les pays développés de la situation terrible dans laquelle plusieurs d'entre eux se trouvent, ben, il n'y a qu'un pas, et c'est ce qui explique que toute cette floraison, cette véritable floraison chaque année de résolutions qui sont du bien commun, prônent le bien commun.
Est-ce que le PALU et le SIDA, c'est bien plus présent là-bas, et c'est bien plus inquiétant, c'est là depuis bien plus longtemps que l'humanité le trace, ou que le H5N1 qui nous terrorise en tant que bon occidentaux, mais qui donc...
C'est vrai que les pays développés vont s'occuper d'abord des pandémies et des menaces.
Oui, oui.
Ah, oui. Vous verrez les toutes dernières résolutions de 2005 sur le VIH-SIDA. Là, l'appel dramatique à une mobilisation pour le bien commun. La santé étant un des biens communs par excellence, le climat.
Dernière question, Richard.
Oui, juste deux questions.
Parlez fort, je vous entendrai pas.
D'accord. Est-ce que cette contradiction, ce débat entre le néolibéralisme et la violence du welfare state ne rappelle-t-il pas l'éternel débat entre les anciens et les modernes avec Aristote, Thomas d'Aquin et... Si c'est le cas, je crains que la partie ne soit perdue d'avance, puisque finalement c'est les réalistes qui toujours l'emportent. Alors la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes sûr que entre l'Europe et les États-Unis, il y a une différence d'attitude vraiment envers la notion du bien commun? Parce qu'il me semble que les Européens sont quand même plus hypocrites que les Américains sur ce débat.
Alors, je commence par votre deuxième question. L'Europe a tout de même fait les conventions de Yaoundé et puis les conventions de Lomé, par lesquelles elle retourne aux États ACP des montants qu'on dit insuffisants, bien entendu. Mais tout de même, l'Europe a reconnu qu'il y avait des obligations, qu'elle avait des obligations par de l'Europe communautaire, parce qu'au sein de l'Europe, les avis sont partagés. Il y a les sociaux-démocrates d'une part, encore l'opposition à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, les sociaux-démocrates d'une part et les conservateurs de l'autre. Bon, donc je pense, je n'ai pas vu de la part des États-Unis aucune attitude qui se rapproche de celle de l'Europe sur ce plan-là. L'Europe, à l'ONU, reconnaît qu'il y a un problème et qu'il faut s'y atteler. D'où ces conventions avec les États ACP. États ACP qui sont de plus en plus nombreux, comme vous le savez. Ils étaient 30 au début, ils sont rendus à près de 80.
La dernière convention est assez... Je me basais sur la dernière convention de Cotonou, pour dire ça, parce que c'est assez hypocrite. Quand on sait que les Européens, au niveau de l'OMC, ont soutenu la notion selon laquelle on doit laisser au pays en développement cette histoire de brevet sur les médicaments, brevet sur les plantes. Mais dans la convention de Lomé, de Cotonou, de 2000, ils ont imposé ce que ces États-là, avec les pays latino-américains, ont refusé. Voilà. Ce que ces pays africains ont refusé avec les pays latino-américains au niveau de l'OMC, les Européens leur ont imposé ça au niveau de la convention de Cotonou de 2000. Alors c'est là où je dis qu'ils sont assez hypocrites. Ils proclament de grands principes et en sourdine, quand les yeux du monde ne sont pas tournés vers eux, ils font ce qu'ils veulent avec les petits États.
Je ne soutiendrai pas que les Européens soient parfaits. Mais le jour où on verra les États-Unis retourner aux États avec lesquels ils commercent 4% du montant de ce commerce pour des fins de développement, ben, ça fera beaucoup d'argent pour les pays en développement. Bon, je viens à votre première question. C'est vrai que ce conflit entre néolibéralisme et libéralisme réformateur, tous ces vieux que le monde, c'est le conflit entre le bien commun et le laisser-faire. C'est mieux, plus vieux que l'ONU et que le temps moderne, bien entendu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, a fait toute cette théorie du bien commun, parce qu'il était très nécessaire, le problème de son époque. Donc oui, c'est vieux, et on ne pourra pas en sortir facilement ni rapidement, sans doute. Mais de là à dire que c'est réglé d'avance, que le bien commun n'aura jamais le dessus, là, je ne me suis pas. Je le vois à petits pas. Je le vois faire des progrès là où il y a une menace presque immédiate, ou une menace possible. Là, on se mobilise. Le SRAS, le VIH-SIDA, bon. On crée même des financements spéciaux pour affronter ces pandémies possibles, parce qu'on n'est pas sûr non plus qu'elles vont se répandre. Ensuite, dans le protocole de Montréal pour la couche d'ozone, on voit tout de même là s'imposer certaines règles. Respecter, de fait. Songez que la Russie s'est vue imposer un embargo de tous les autres États sur les CFC qu'elle exportait, parce qu'elle continuait de les fabriquer sans vergogne. Il y a eu cette sanction. Là, c'est un progrès, pas à pas, mais c'est un progrès. Et bon, je donnais également d'autres exemples dans le domaine de la santé. Alors dans le domaine de la santé, évidemment, c'est plus palpable qu'ailleurs, parce que le bien commun est plus évident, saute aux yeux, en quelque sorte. Voilà ce que je répondrai.
Je sais qu'il y a d'autres questions dans la salle. Il y a même peut-être 30 secondes, il y a un épidémiologiste chez nous va peut-être poser une question par rapport à cette pandémie et l'OMS.
Très vite. J'aimerais, vous avez fait référence au phénomène de globalisation comme un phénomène social. Et ma question, c'est un peu rhétorique. J'aimerais vous demander si le capital social, c'est toujours un bien commun. On peut regarder le capital social toujours comme un bien commun.
Tout dépend de ce que vous appelez le capital social. Est-ce une expression consacrée?
Oui, c'est en anglais, c'est social capital. Oui. Et ça veut dire, c'est le qu'est-ce que, en anglais, c'est...
Une en anglais?
Oui. The endowment of a community, the social endowment of a community. Ça veut dire c'est une communauté apporte dans la société.
Oui. Alors, la façon dont vous le définissez là, je pense que c'est pour ainsi dire l'alter ego du bien commun. Ça signifie la même chose. Et dans la doctrine, notamment la doctrine britannique du 19e siècle, on avait toutes sortes de,
expression pour décrire le bien commun. On n'utilisait pas bien commun parce qu'il faisait médiéval, mais on utilisait social, ethos, probablement de cette expression de social capitalisme. C'est une autre façon d'invoquer les ressources communes, les fins communes, l'humanité commune. Vous voyez, dès qu'apparaît le mot social, en général, c'est avec un souci de bien commun, généralement. Mais j'aimerais voir le texte où on utilise la phrase pour voir le contexte et mal l'interpréter peut-être de façon plus exacte.
Merci, puis merci encore pour M. Morin d'être venu aujourd'hui pour ouvrir notre série de conférences. Si vous voulez une copie de texte de M. Jacques-Yvan Morin, vous pourriez consulter Yann Joly, parce qu'on a des copies disponibles. Donc, merci, et je vous invite au buffet.
Merci.